portrait de prof. Les enseignants du collège Jacques Prévert prennent la parole sur Radio Prévert 105.9. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Prévert 105.9 à Chalon et on va parler enseignement et choix de carrière aujourd'hui. Depuis 1994 se tient chaque 5 octobre la journée mondiale des enseignants. Fondée par l'UNESCO, elle vise à sensibiliser le rôle des professeurs dans le système éducatif. Et à cette occasion, on va recueillir les témoignages dans cette série de portraits de plusieurs professeurs du collège Jacques Prévert de Chalon qui vont revenir à tour de rôle sur leur motivation à devenir enseignant. Et je reçois tout de suite Jérémy Jacques. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors tu es prof d'EPS, de sport, plus concrètement au collège Jacques Prévert. Pourquoi tu as choisi justement cette discipline ?
Alors moi je faisais quand j'étais jeune beaucoup de sport, beaucoup de gymnastique, donc à un niveau régional, donc depuis mes 6 ans jusqu'à mes 16 ans. Donc quand j'étais au collège et au lycée, je regardais beaucoup mes professeurs d'EPS travailler et puis tout doucement l'idée m'est venue d'en faire mon métier, mais c'était juste quand on me posait la question quand j'étais justement au collège. Je répondais à mes professeurs que je souhaitais être professeur d'EPS.
Et tu n'as jamais eu d'autres vocations, d'autres métiers en tête, justement, durant ton enfance ou même plus tard ?
Pendant mon enfance, quand on me posait à chaque fois la question, c'est ça que je répondais. Mais ensuite, plus tard, par exemple, même encore aujourd'hui, je me dis, un peu comme tout le monde, j'aurais bien fait autre chose. Non pas que j'aime pas ce que je fais actuellement, mais il y a toujours une certaine lassitude. Et moi, j'aime bien dessiner notamment les voitures et le design automobile m'aurait vraiment beaucoup plu. Si à l'époque, j'avais senti cette opportunité ou cette possibilité de dessiner des voitures, j'en aurais vraiment bien fait mon métier. Je dessinais des voitures, mais comme ça, et je pensais pas que ça pouvait être un métier. Et aujourd'hui, je me verrais bien faire ça.
D'accord. Donc on parle du sport, mais le sport dans l'enseignement. Carrière sportive, non ? T'as jamais pensé à avoir une carrière sportive à côté, plutôt que l'enseignement au final ?
Non, c'est vrai que à la fac, par exemple, il y a plusieurs filières qui s'offrent à nous, l'enseignement ou l'entraînement, le coaching, ou vraiment sportif de haut niveau, par exemple. Donc pour sportif de haut niveau, j'en ai jamais eu l'ambition, j'avais pas le niveau non plus. Pour être coach ou entraîneur, c'est pas forcément ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté enseignement avant le sport ou le PS, c'est-à-dire transmettre des choses. Mon père était moniteur auto-école, donc il transmettait aussi, comment bien conduire. Je le voyais faire et c'était plutôt la façon de transmettre aux gens, de parler aux gens, qui m'intéressait plus que finalement le sport. Malgré tout, je me serais pas vu professeur de français ou de maths. C'est vraiment l'association des deux qui m'a plu, mais avant tout l'enseignement et la pédagogie.
Et justement, dans l'enseignement, qu'est-ce qui t'intéresse ? Est-ce que c'est pour toi important de transmettre un savoir ?
Oui, moi c'est ça vraiment qui me plaît. Ça me plaisait de transmettre déjà le plaisir que moi j'éprouve à pratiquer du sport. Ça me paraît très important quand on est jeune. Surtout là actuellement on est au collège, ça me paraît important de leur transmettre ça. Bon, bien sûr de progresser, d'apprendre des techniques, mais surtout le plaisir de pratiquer. Et puis maintenant aussi que je suis dans l'enseignement, moi ce qui me plaît aussi c'est de transmettre à mes autres collègues, à des stagiaires qui vont débuter dans l'enseignement ou à mes collègues qui ont même plusieurs années d'enseignement, mais où je pourrais leur apporter d'autres compétences que j'ai développées au fil des ans. Donc c'est toujours cette idée de transmettre qui me plaît à des enseignants, à des enfants, Donc aujourd'hui c'est sur d'autres domaines, mais c'est toujours cette idée.
D'accord. Et le collège, pourquoi enseigner dans un collège et pas dans un lycée par exemple ?
Ça c'est vraiment le fruit du hasard des mutations. J'ai déjà enseigné en lycée professionnel, un tout petit peu en lycée parce que j'ai été remplaçant. Au gré des mutations, il y avait un poste de disponible au collège Jacques Prévert que j'ai pris. Pourquoi pas plus tard prendre un poste en lycée ? Il n'y a vraiment pas de ma part un choix volontaire d'être en collège ou de ne pas être en lycée ou inversement. Voilà, c'est le hasard des mutations qui ont fait ce choix.
D'accord, donc ça s'est fait comme ça. Et justement, quel cursus tu as fait pour être prof de sport aujourd'hui ?
Le cursus classique. Donc, on passe son bac et puis ensuite, on va à la faculté des sciences et du sport, donc à l'UFR STAPS. Donc, moi, à l'époque, il n'y avait pas l'antenne du Creusot, donc c'était à Dijon. À l'époque, c'était un DEUG 1, un DEUG 2. Ensuite, on passait une licence et à l'issue de licence, on allait en maîtrise. Et à l'issue de la première année de maîtrise, on pouvait passer le concours à l'IUFM à l'époque pour être enseignant de PS. Et ensuite, on avait une année quand on avait eu le concours, on avait une année de stage pour être titularisé, pour voir qu'effectivement, face à des enfants, on est effectivement apte à enseigner. Voilà le cursus classique de 4 ans pour devenir enseignant.
On va parler plus de l'enseignement. souvent. Est-ce que c'est pas répétitif, voilà, chaque année, peut-être chaque classe, de refaire la même chose, refaire les mêmes cours pour un prof, que ce soit de sport ou un prof de français, un prof d'histoire par exemple?
Alors la réponse est oui et non. Oui, il y a un côté répétitif, les sports sont toujours un peu les mêmes, même si des nouveaux sports arrivent chaque année. Les programmes changent, donc il y a toujours des petites adaptations. Donc oui, il y a un côté répétitif, mais en même temps, les élèves changent beaucoup, ils évoluent aussi beaucoup, ils évoluent vite. Nous, quelque part, on vieillit aussi. Les élèves, eux, ont toujours entre 12 et 16 ans, et donc, on s'adapte à l'évolution de la jeunesse, de la société, et nos contenus, forcément, s'adaptent aussi. Puis après, c'est à chacun de se renouveler, d'aller à la recherche de nouvelles choses. Depuis 10 ans maintenant qu'on a Internet, ce qu'on n'avait pas à l'époque, forcément on voit un tas de collègues faire un tas de choses, et on se dit, bah tiens, moi allez hop, je change un peu mon truc, ma routine, et je fais un petit peu autrement. Bon, après on tourne toujours autour des mêmes notions, des mêmes objets d'enseignement, mais il y a moyen de se renouveler si on en a envie.
Et Internet, ça a beaucoup joué justement dans le renouvellement des cours par exemple?
Oui, pour moi ça a beaucoup joué. Avant on avait une revue professionnelle, mais on attendait tous les mois, donc bon, on n'avait pas forcément un accès aussi simple à un tas de situations différentes, de petits jeux qui peuvent varier un peu le contenu. Bon, effectivement il y a des sports qui disparaissent un petit peu, comme la gymnastique, ça disparaît un petit peu du collège, le badminton prend beaucoup d'ampleur, donc on se renouvelle. Depuis que je suis à Prévert, il y a de la boxe française que j'avais jamais enseignée. Donc je m'y suis mis, tout simplement, un petit peu. Voilà, c'est encore pas mon enseignement préféré, mais j'essaye de le faire quand même. Peut-être que dans 5 ans, il y aura un sport à la mode qui va aussi, auquel il faudra s'y mettre, quoi, tout simplement.
Donc tout à l'heure, tu parlais d'échange de savoir, de connaissances. Est-ce qu'Internet, ça t'a permis finalement aussi d'échanger avec d'autres professeurs, d'établissements extérieurs, ou de voir autre chose justement dans le domaine du sport ou de l'enseignement?
Oui, bah alors là, avec les réseaux sociaux, tout simplement, notamment Twitter, on peut très facilement... Alors je m'y suis mis à Twitter depuis 3-4 ans maintenant, et je vois vraiment, vraiment beaucoup de choses passer. Professionnellement, c'est un outil génial. Après, il existe aussi des réseaux sociaux spéciaux enseignement, où on voit aussi passer des choses, et du coup, à chaque fois, on se dit, oui, pourquoi pas, ça, c'est génial. Bon, après, c'est presque l'inverse. On voit tellement de choses passer qu'on n'a pas encore le temps de les mettre en place, qu'on voit une nouveauté. Donc, des fois, c'est un peu la course aussi à l'innovation et au renouvellement. Mais, des fois, il y a des choses qui font des clics, et puis nous aussi, on peut partager nos expériences. Donc, moi, j'essaye, dans le cadre des formations que je fais pour mes collègues, de dire, moi, je fais comme ça, on peut échanger, et voilà, c'est intéressant.
Parce que tu es aussi formateur à côté?
Voilà. Depuis quelques années, je suis formateur. Donc, j'ai obtenu une petite certification qui me permet d'être enseignant formateur. Et donc, depuis Internet, depuis les tablettes, on utilise beaucoup les tablettes maintenant en EPS ici au Collège Jacques Prévert. Et je me suis rendu compte que j'avais quelques compétences à ce niveau-là et que je pouvais les mettre au service de mes collègues. Donc, d'abord de mes collègues ici au collège. Et puis ensuite, j'ai vu que ça intéressait, et donc j'ai mis mes compétences au service tout simplement de l'inspection, et donc je suis amené à faire des formations dans d'autres établissements à la demande des collègues, sur l'EPS et les tablettes, comment on peut utiliser les tablettes en EPS, qu'est-ce que ça apporte. C'est un truc qui est assez à la mode en ce moment.
Et c'est peut-être plus attrayant, pédagogique, peut-être pour les élèves aussi, d'avoir des tablettes.
Oui, voilà, donc on est de plus en plus dotés de tablettes dans beaucoup de collèges en Saône-et-Loire, et puis en Bourgogne. Il y a un côté attrayant, mais il y a aussi, au-delà du côté mode et attrayant, il y a des applications qui nous permettent de faire des choses qu'on ne peut pas faire sans, ou du moins ça change beaucoup les tâches. En EPS, par exemple, la vidéo a toujours existé. On a toujours travaillé avec des caméscopes, des télés sur roulettes pour montrer aux élèves leurs prestations. Mais maintenant, avec les tablettes et des applications qui passent au ralenti, qui font du différé, c'est-à-dire l'élève passe et se revoit immédiatement après sans que personne n'appuie sur un bouton, permettent d'augmenter la quantité de passage, à l'élève de s'auto-corriger, de s'auto-évaluer. Et en fait, ça, on pouvait pas le faire avant avec un caméscope et une télé. Le dispositif était trop lourd. Donc en fait, il y a la mode, mais il y a aussi la technologie qui permet de faire plus de choses. Voilà, donc les élèves, effectivement, ils sont contents d'appuyer sur des boutons sur des tablettes, mais ça suffit pas, ça tient pas la route longtemps. Au bout d'un moment, ça les intéresse plus s'il n'y a pas une application qui leur permet de voir que, finalement, grâce à ça, ils apprennent plus, mieux, plus vite, quoi.
D'accord. Alors, tout à fait autre chose. Est-ce que, au cours de ta carrière, de tes années d'enseignement, t'as vécu des moments difficiles? Alors, j'entends par là, vis-à-vis des élèves, ou dans tes débuts, justement.
Alors, dans les tout débuts, ce qui était très difficile, c'était la première mutation, le fait qu'on nous dise, au 31 août, pour le 1er septembre, que, on se retrouve dans l'Aisne, en Picardie. Et puis, on monte avec sa Twingo, sa télé dans la voiture, un sac avec quelques habits, et puis, on sait que le lendemain, on enseigne. Pour la première fois, que l'établissement le connaît pas, qu'on va tout découvrir le jour J, et puis surtout on n'a pas de logement, on dort à l'hôtel la première nuit, avec la télé dans la voiture, et puis très vite, ça c'était un peu dur, j'ai eu un logement dans l'établissement, dans les toits, mais je descendais les escaliers, j'étais dans les classes, donc c'était vivre sur son lieu de travail, c'était
un peu compliqué.
C'était compliqué. donc et puis loin de de ma copine de l'époque, loin de tout ça. Donc ça c'est un peu dur, ça a duré une semaine, deux semaines, le temps de trouver un logement décent, le temps que au bout de trois mois ma copine me rejoigne. Mais ça bouleverse des vies au départ, surtout quand on est implanté dans une région et tout. On sait que peut-être on n'y reviendra pas tout de suite dans cette région, donc il faut se faire à l'idée. Après les gens s'adaptent plus ou moins vite. Voilà, moi j'ai su m'adapter, mais toujours avec cette idée de vouloir revenir quand même, près de mes parents, près d'un tas de choses. Donc ça, c'est un petit peu dur au début. Et encore, moi je suis tombé dans une académie, un établissement qui était pas trop difficile. Je sais que d'autres au moins n'ont pas cette chance et tombent dans des établissements en plus difficiles. Après, effectivement, il y a des moments où on a des classes très difficiles, dans des endroits, ou même dans des endroits où a priori c'est pas difficile, mais c'est ce moment-là on tombe sur des classes difficiles ou des élèves difficiles ou problématiques. Bon, ça, c'est des choses qui passent, faut savoir aussi, attendre, trouver des solutions à un moment donné. Après, pour moi, le moment le plus dur, c'est vraiment cette mutation, et puis ce stress de savoir qu'on va peut-être jamais revenir, et puis ce management dans l'éducation nationale qui est basé sur beaucoup d'incertitudes. Pour construire un peu sa vie, c'est compliqué au début, quoi.
D'accord. Et finalement, t'en as quand même tiré un petit peu du positif de ces années
d'errance.
hors de la Bourgogne, en quelque sorte.
Oui, oui. Et puis, encore une fois, avec le recul, je me dis, j'aurais pu rester là-bas. Je voulais à tout prix revenir parce qu'on est sur des schémas qui sont tout prêts, tout faits. Et en fait, avec le recul, on peut tout à fait se dire, je reste dans cette région, elle est pas si mal, même si c'est pas ma région de cœur. J'aurais peut-être eu un établissement plus rapidement, parce que le fait de vouloir revenir, c'est ce que j'ai voulu faire vite dans l'académie de Dijon. J'ai pas eu tout de suite l'établissement, par exemple dans le Chalonnais, donc j'ai aussi erré dans l'académie de Dijon. J'ai été à Cosne-sur-Loire, j'ai été à Autun, au Creusot, etc. Donc toujours pas là où je voulais. Donc il aurait peut-être fallu rester. J'étais vers Reims là-bas, j'étais sur une grosse ville. J'aurais peut-être pu rester un peu plus longtemps et puis peut-être faire ma vie là-bas. Des fois je me dis que voilà. Puis j'ai rencontré plein de collègues aussi. Moi, j'aime beaucoup changer, rencontrer des collègues. Ça rejoint un peu le côté formation. Et à un moment donné, on aime se poser aussi, on aime construire des choses dans le même établissement. Là, ça fait 6 ans que je suis à Prévert, donc c'est bien de se poser aussi.
Pouvoir évoluer les choses également.
Oui, voilà, de faire.
Se laisser le temps aussi.
De se laisser le temps, d'être dans un endroit dont on sait que on va y rester un moment, on pourra monter des projets. Il y a un confort. Après, je pense qu'il faut pas rester trop longtemps dans un établissement non plus. Tout simplement pour changer un peu les habitudes.
Casser la routine.
Et casser la routine, oui.
Alors, on va parler maintenant du thème de cette année, de cette journée en tout cas mondiale de l'enseignement. Le thème, c'est le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. Alors, bon, ça paraît tout bête. Qu'est-ce que tu en penses justement? Ça paraît normal finalement d'avoir des enseignants qui sont qualifiés, qui ont les connaissances pour enseigner aux élèves justement.
Oui, ça rejoint les deux choses dont je t'ai parlé, c'est-à-dire d'un côté, moi, je pense que la formation continue, c'est-à-dire la formation des collègues qui sont déjà en poste. Pour moi, c'est primordial, elle n'est pas assez développée. Donc moi, mon petit niveau, je forme sur les tablettes, des choses comme ça, mais finalement, il y a des collègues, s'ils ne demandent pas de formation ou si on les sollicite pas, ils vont faire leur carrière sans se renouveler complètement. Donc je pense que pourquoi pas une formation continue obligatoire avec un certain nombre de journées à faire pour renouveler un petit peu ses pratiques. La formation initiale aussi, alors pas forcément à l'UFR STAPS, mais peut-être dans d'autres universités, elle est très disciplinaire et pas toujours orientée orientés sur la pédagogie, la psychologie des enfants, etc. Donc des fois, il y a des enseignants qui sont très bons dans leur discipline, mais ils n'ont pas forcément eu en formation initiale les connaissances nécessaires à l'enseignement, proprement dit. Donc il suffit pas d'être bon dans sa discipline pour bien enseigner. Et puis, donc voilà, la formation et un enseignement de qualité. Il y a l'autre chose que je vous disais, c'est le management dans l'éducation nationale. Le fait de balancer les jeunes un peu n'importe où en France, de gérer ça un petit peu comme des pions qu'on place, bah ça aide pas forcément à avoir un enseignement de qualité, parce que celui qui est déraciné, il va rentrer le week-end très rapidement chez lui, donc il va demander un emploi du temps bien particulier, il va pas rester dans l'établissement. Voilà, pour s'investir dans un établissement, faut être aussi bien chez soi, faut être pas loin, enfin tout un tas de données qui font que l'organisation de l'éducation nationale ne le permet pas toujours. Donc bien gérer ses enseignants, bien les former, mais aussi bien les gérer d'un point de vue humain, pour que ce soit pas que des pions qui soient remplacés ou pas, et du coup il y a une continuité de l'enseignement qui se fait, et je pense qu'on y gagnerait tous, quoi.
Pour des bonnes conditions de travail, que ce soit pour les professeurs et pour les élèves.
Voilà, bonnes conditions de travail pour les professeurs, c'est forcément derrière un meilleur enseignement aussi pour les élèves. Voilà. Nous, je vois au Collège Prévert, on a quand même toujours plein de nouveaux qui arrivent au début de l'année. Ils n'ont pas connaissance de l'ensemble des logiciels, de l'ensemble des choses. Ils arrivent souvent, ils sont un petit peu parachutés. C'est difficile pour eux d'être opérationnels au 1er septembre face à leur classe. Pourtant, ils y sont face à leur classe tout de suite.
Et ils sont obligés d'y aller.
Et ils sont obligés d'y aller, et ils le font avec beaucoup de courage. Mais des fois, ils sont pas forcément accompagnés. Ils sont là. Alors, heureusement, des fois, il y a des collègues qui les prennent par la main, qui les aident, qui leur montrent. On est quand même solidaires. Mais on n'a pas une hiérarchie qui permet de le faire toujours bien.
Et donc, avant de refermer cette interview, est-ce que tu aurais justement une anecdote ou quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué durant cet entretien que t'aimerais dire à l'antenne de Radio Prévert? Peut-être que t'es le président également de la radio aussi, à côté, pour ton activité?
Oui, président de la radio, tout à fait, oui. Donc, président de la radio. Alors, c'est vrai que, par exemple, j'ai pas d'anecdote à proprement parler. Je trouve que dans notre métier, on est amené à pouvoir aborder un certain nombre de choses. Il y a l'enseignement, mais dans chaque collège, il y a plein de projets très intéressants. Ici, il y a une radio. Moi, j'ai sauté sur l'occasion quand on m'a demandé, parce que je me suis dit, tiens, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'intéressant. Dans d'autres collèges, il y aura un laboratoire, photo, il y aura un CDI. Enfin, il y a toujours plein de choses à faire. Ça rend ce métier intéressant, parce que finalement on peut faire comme un deuxième métier au sein du collège. Donc voilà, j'ai pas d'anecdote, mais c'est vrai que je pensais pas un jour me retrouver président d'une radio FM, et puis au gré des mutations et des envies, effectivement je me retrouve président d'une radio FM. D'ailleurs, je te remercie Stéphane pour tout ce que tu fais pour la radio cette année, et puis longue vie à Radio Prévert, parce que je trouve que c'est un outil super pour les élèves, pour le Chalonnais tout simplement.
Très bien, et sur ces mots, donc, on va refermer cette interview. Merci Jérémy.
Merci Stéphane, merci à toi.
À savoir que cette journée mondiale des enseignants 2018 marque également le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme datant de 1948. Elle inscrit l'éducation parmi les droits fondamentaux et proclame le droit à un enseignement gratuit et obligatoire avec un accès équitable et inclusif à l'éducation pour tous les enfants. Voilà, très bonne journée sur les ondes de Radio Prévert 105.9. C'était Portrait de prof sur Radio Prévert 105.9, la radio qui vous change d'univers.